chronique 1001 pages. Chaque semaine, on retrouve Frédéric avec nous à distance pour ses conseils avisés de lecture. Et cette semaine, c'est le troisième temps d'une vie qui en compte sans doute plus de 1000, dont tu nous parles, avec le volume final d'une trilogie biographique, somptueusement graphique, de Jacques Brel.
Oui, Nico. Et c'est toujours signé Salva Rubio pour le scénario et Sagar pour le dessin. C'est publié chez Glénat. Et il est vrai que cette troisième partie de vie est peut-être encore plus intéressante que les deux premières, de par le fait que justement il décide de descendre de scène, d'arrêter les tours de chant. Ça se fait d'ailleurs à Roubaix, pour ceux qui aiment les détails locaux, après l'Olympia. Et puis ensuite, eh bien, que faire ? Parce que voilà, d'un seul coup, il se retrouve avec beaucoup de temps devant lui. Très vite, nous explique le scénariste, entre ses mains tombe un 33 tours d'une comédie musicale qui a un énorme succès outre-Atlantique. Ça s'appelle L'Homme de la Mancha. Mais il faut convaincre les producteurs de le laisser traduire cette comédie musicale en français et de jouer le rôle, la produire en France, enfin, tout ce qu'il faut pour réussir à ce que ce spectacle existe ici, en français. Que faire ? Modestement, il passe une audition. Évidemment, les producteurs n'hésitent pas longtemps, ils ont raison. On trouvera plus d'une fois des notes signalant que la version française, belge, je ne sais, est largement meilleure que la version américaine. C'est dire. Dans ce domaine-là, en général, ils sont bien meilleurs que nous. Et puis, il faut bien le dire, les comédies musicales, de ce côté-ci, ça ne marche pas. Sauf qu'avec Brel, ça marche terriblement trop, pourrait-on dire, puisqu'au bout de 150 représentations, quand même, il en a un petit peu marre. Les contraintes sont bien plus importantes que sur les tournées. On ne peut pas, à l'infini, faire durer la nuit. Il faut accepter beaucoup de contrariétés, pourrait-on dire. En tous les cas, il faut réussir à se contraindre à faire tout cela. Alors il abandonne et il paie tout ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Mais de nouveau, à 44 ans, la retraite, ça ferait bon dire Monsieur Macron. Non, il va faire du cinéma, des deux côtés de la caméra, avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins des bonnes critiques, avec généralement un décalage entre les deux. Il n'empêche, le succès finit par arriver aussi. D'ailleurs, au moment où il a déjà décidé d'arrêter ça aussi, l'emmerdeur est, d'un point de vue du nombre d'entrées, une réussite totale. Ce qui est très intéressant dans cet album, c'est de voir aussi le côté graphique de cette biographie, parce que le travail de Sagar est excellent sur les couleurs lorsqu'il va aller dans les îles, je vous en parle dans un instant, mais même quand il traverse la Grand Place de Bruxelles, il réinvente la ligne claire avec un tout petit halo. On le verra aussi peindre deux planches, je dis bien peindre, deux planches somptueuses pour raconter ce que pouvait être ce spectacle de l'Homme de la Mancha. Il est capable aussi d'inverser, c'est-à-dire dans un monde on ne peut plus horizontal, il va dessiner verticalement la mer lorsque Brel décide de prendre la mer. Dans un trop gros bateau pour lui, la Skoy, avec tous les problèmes que cela peut représenter, mais il faut partir et voler. On a un peu l'impression d'avoir Jules Verne à ce moment-là, quand il a fini d'écrire ses romans, il veut lui-même voyager. Eh bien, on a ça. Il part très loin, un peu comme si ce temps qui allait s'immobiliser aux Marquises lui permettrait de peut-être vivre un peu plus longtemps parce qu'on lui a découvert un cancer suite à un problème lorsqu'il est aux Canaries. Le cancer va avancer. Il n'est pas... et on l'apprend très précisément dans l'album. Il n'est pas forcément mortel. Sur ça, je vous laisse lire parce que c'est vraiment très très intéressant. Et on voit malgré tout Brel fuir à peine moins les médecins que les journalistes qui s'acharnent de façon incroyable, inimaginable pourrait-on dire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a un peu l'impression que tout le monde veut montrer sa vie sur les réseaux qu'on appelle sociaux, cas sociaux me paraîtrait plus juste. Mais dans cette démarche-là, on a vraiment une poursuite incroyable et une fuite tout aussi importante. Il n'en reste pas moins que là-bas, sur les îles, il se veut au service des gens, du petit nombre de gens qui habitent là, qui lui fichent la paix, et il devient presque ambulancier en avion. Et malgré tout... pour avoir rencontré une petite fille, là encore, je ne vais pas gâcher l'album, vous regarderez. Il a décidé de refaire un album. Dernier album, peut-être. En 1977, il revient à Paris avec des chansons déjà un petit peu préenregistrées sur ce qui n'existe plus aujourd'hui, des cassettes. Et on le voit enregistrer, travailler, se moquer de lui-même, mettre tous les musiciens dans sa poche. Et Barclay, qui a ramassé tous les droits, vendre 1 million d'albums en un jour, alors qu'il avait promis de ne pas en tirer plus de 300 000. On voit aussi une somptueuse planche 43 avec une énumération de toutes les trahisons, qui raconte bien aussi ce qu'est être un artiste lorsqu'on décide de sortir un petit peu du moule. C'est ça, au fond, qui pourrait montrer cette vie à mille temps, ce volume 3, publié chez Glénat, et comme je vous le disais, vraiment, vraiment très, très réussi, signé Salva Rubio et Sagar. Voilà pour cette semaine, cher Nico.
Merci Frédéric. Prochaine chronique, 1001 pages. La semaine prochaine sur Radio PFM 99.9, une chronique à retrouver en ligne, radiopfm.com.